Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un second soir de Béliveau Rencontre. Hier, c'était un peu spécial pour la journée du don d'organes. Et aujourd'hui, complètement différent, un Béliveau Rencontre dans sa formule traditionnelle avec Pascal Dufresne, qui est auteur de ce livre, Être leader créateur. Bonsoir Pascal, ça va bien?
Bonsoir Jean-Luc, ça va très bien. Bonsoir Lolita.
Bonsoir.
Oui, bonsoir à Lolita, la co-animatrice. Et toujours
salut tout le monde dans les estrades.
Oui, toujours un plaisir de t'avoir, ma chère Lolita, deux fois de suite.
Oui, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est le fun.
On n'a pas le temps de s'ennuyer. Écoute, c'est un plaisir à chaque fois. On est en direct sur plusieurs pages Facebook, YouTube, LinkedIn, ma chaîne Twitch aussi. Et demain, vous allez retrouver le tout en balado, donc vous allez avoir cela sur Apple Podcasts, Hayat Radio, Spotify, il va y avoir Audible, du Google Podcasts, du Amazon Podcasts, enfin partout, et ça va être vraiment diffusé, vous allez pouvoir y entendre. Et en même temps, jeudi à partir de 9h, 21h le soir, ça va être sur Radio Unicité que vous allez entendre l'entrevue en intégralité. Donc, merci à Unicité de nous diffuser tous les mercredis. Puis, n'oubliez pas qu'on peut vous poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre. Surtout Pascal, moi, je vais être l'entremetteur de vos questions, puis je vais poser le tout à Pascal qui va se faire un plaisir de vous répondre à toutes ces questions. Je vais juste prendre quelques secondes pour débuter, pour un petit truc personnel pour les gens de Sherbrooke. J'ai été au Salon du Livre de Sherbrooke la fin de semaine dernière. Merci pour votre accueil, ça a été très, très chaleureux. Écoutez, c'est vraiment un Salon du Livre extraordinaire. Merci pour ça, vous avez été nombreux à acheter mon roman. Je suis encore tout renversé, merci.
Et on fait un fan club là-bas, Jean-Luc.
Ah oui, j'ai un nouveau
fan club. Un fan club, oui.
Le prochain fan club, il va être à Rimouski, où ce que je vais être les 4 jours au Salon du Livre de Rimouski. Donc, venez me voir, ça va me faire un plaisir. Les crayons sont prêts pour signer. Donc, Pascal, pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore?
Bien sûr, bien sûr. Ben, je suis. Ben, d'abord, je vais me présenter par rapport à mon rôle de maman, parce que je pense que c'est un des rôles qui est le plus important. J'ai une maman de 2 grands-enfants de 20 et 23 ans qui m'ont suivie dans toutes mes aventures de vie. Ça fait 32 ans que je suis dans le domaine corporatif. Je travaille avec les gestionnaires. J'ai fait plusieurs années de conseil en gestion. Puis j'ai eu des crises existentielles, je dirais, à ma trentaine, il y a eu une première crise où j'étais vraiment en quête de sens. Et à ce moment-là, je suis partie faire de la coopération humanitaire en Afrique de l'Ouest. Et c'est là que je tombe enceinte de mon garçon Mémile à mon retour. Et je suis retournée dans le monde corporatif pour avoir une seconde grande remise en question avant la quarantaine. Donc, ça fait quelques années. Je ne vais pas m'excuser tout de suite en partant. Ça a été une grande période d'indignation. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'on traite mal les gens dans les milieux de travail, la souffrance organisationnelle. Puis je faisais partie de ce système-là, hein, parce que je suis une gestionnaire depuis que j'ai 23 ans. Beaucoup de souffrance organisationnelle. À un certain moment donné, même, je me suis dit, mais je pense que le milieu corporatif, c'est pas pour moi.
Ça faisait mal.
J'avais compris lors de toutes mes expériences à faire de l'humanitaire, par contre, que mon enjeu n'allait pas se régler en me déplaçant à l'autre bout du monde, nécessairement, que j'avais un voyage intérieur à faire. Bon, ça, c'était déjà un apprentissage. Alors, j'ai débuté ce voyage de développement de moi, une grande quête spirituelle. Et à un certain moment donné, je me suis dit, Mon travail est là dans les organisations parce que j'ai le langage des gens d'affaires et j'ai fait parce que le voyage de développement humain et de conscience, c'est un voyage d'une vie, mais j'ai amorcé ce voyage-là et c'est ce que j'ai envie d'offrir. Et donc, je me suis, on pourrait dire, réinventée avec un paquet de formations, mais ça, vous pourrez aller voir mon pedigree, mais surtout, je me suis réinventée dans mon sens, dans ma mission, ce que j'avais envie d'offrir. Et donc, ça fait à peu près 13-14 ans que je parle d'humanité dans les milieux de travail, de conscience, d'empathie. Puis là, maintenant, on est ouvert à ça. Hein. On en parle ouvertement. Mais
ça devait être plus difficile au début. Hein. Tu devais te faire regarder comme si tu étais un extraterrestre.
Écoute, Lolita, tu ne peux pas mieux dire. Mm-hmm. On me regardait comme ça. Puis là, des fois, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas venir faire? Tu sais, vas-tu emmener du patchouli, de l'encens?
À quoi tu vas servir? À quoi tu vas servir?
À quoi tu vas servir? Comment on vend ça de l'empathie? Tu sais, comment on vend ça de l'humanité à des exécutifs? Fait que depuis ce temps-là, mon message s'est raffiné. Les gens ont vu pas seulement la nécessité, mais vraiment on développe l'intention, le résultat, ouais, de prendre soin des humains. Puis depuis la COVID, je dirais qu'il y a eu un grand retournement parce que les gens, les gestionnaires ont fait face à beaucoup de fragilité.
Oui.
Et ils ont réalisé qu'ils devaient d'abord être sensibles par rapport à eux-mêmes.
Oui.
Et être sensible à leurs équipes.
Puis ouvert envers COVID, les autres.
Exact. Fait que la COVID, dans ce sens-là, a été une espèce de cadeau mal emballé là, pour mon domaine d'expertise parce que on a pu à convaincre les gens de la nécessité de l'humanité dans les organisations. Maintenant, moi, c'est devenu, ben, maintenant qu'on sait que l'humanité, que la bienveillance est nécessaire, c'est comment on allie ça avec la performance, parce qu'on n'est pas dans le monde des calinours, on a des résultats à atteindre aussi. Alors, c'est devenu mon thème de recherche et de mission de vie, faire des « et » là où, en principe, on voit des « ou », performance, humain, comment on peut réconcilier ça.
Mais c'est il y a
une de tes phrases qui fonctionne. Jean-Luc, écoute cette phrase-là qui est importante qu'elle a dit. Là. C'est comme ça probablement qu'elle a dû s'imposer. Elle dit, nous avons besoin dans chaque communauté, dans chaque groupe, d'un fauteur de troubles angélique. C'est vraiment ça que tu représentes. Là.
Ben, merci, Lolita. J'adore ça parce que je vois que tu es allée te renseigner. J'adore ça. Ben oui, puis c'est là, ça aussi, c'est des « et ». Tu sais, c'est moi, je porte ce souhait qu'on vive dans un monde où il y a plus de nuances. Hein? On a grandi beaucoup dans un monde de noir et blanc. C'est vrai, c'est faux, c'est noir, c'est blanc, j'ai raison de penser. Alors, pour moi, comme ce que tu dis, le fauteur de troubles angélique, c'est un beau « et » à faire entre ben, on brasse les choses et on le fait avec humanité et bienveillance. Oui, c'est des mots, ce sont des mots qui me, ouais, qui, on pourrait dire qui me représentent en humilité.
Très bien, oui.
Qui me portent, ouais.
Avec le COVID, il y a eu une vague qui s'appelle la grande démission, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont décidé de quitter leur emploi pour se partir en affaires. Tu disais tout à l'heure que ça avait fragilisé un peu les gens d'affaires et tout ça. Est-ce que cette fragilité a-t-elle été... Est-ce qu'il y a eu comme une prise de conscience avec cette grande démission qu'on a appelée à l'époque?
Je pense que la fragilité des humains, on est dans un monde où la performance a été à l'ordre du jour, tu sais, depuis les 30 dernières années. Ce qu'on voit, tu sais, c'est ça, ben, Lolita, je pense qu'on s'entend là-dessus, c'est ouais. ce qu'on s'attend des gestionnaires, entre autres, c'est qu'ils soient forts. À la limite, je dirais, invincible.
Invincible avant... et froid. Souvent, on l'exigeait. C'est pas tes sentiments qui comptent, c'est pas ton cœur, c'est ta tête. T'as pas le choix.
Exact.
C'est plus ça que les gens veulent vivre maintenant. Là.
Les gens veulent plus vivre ça.
Non.
Il y a beaucoup de têtes, il y a beaucoup d'actions dans nos organisations. Maintenant, grâce à des travaux comme, par exemple, Brené Brown, que vous connaissez, qui a parlé de thèmes très sexy comme la vulnérabilité, comme la honte, comme on sait maintenant que être vulnérable, c'est pas d'être faible ou d'être
mou. Non, c'est pas un défaut, c'est d'être vrai.
C'est d'être vrai, c'est d'être capable de se montrer humain. La honte est un autre terme aussi. Ben, on crée de la honte dans les organisations. Fait que je pense, pour répondre à ta question, Jean-Luc, que cette fragilité-là est devenue très, très, très apparente. Puis même des choses qui étaient plus subtiles avant. Tu sais, on peut parler de violence subtile, par exemple.
Ouais. Ben là, maintenant, avant, c'était toléré, puis maintenant.
Plus maintenant.
Plus maintenant.
Voilà.
C'est une bonne chose, en fin de compte, quand on pense à ça.
C'est une excellente nouvelle. Ouais. C'est une excellente. Évidemment, on est souvent dans des grandes transformations, que ce soit individuelles ou collectives, comme dans un effet de balancier. Fait que là, on voit des grands mouvements se faire, puis, tu sais, on est passé de la performance à tout prix au détriment des humains à, tout d'un coup, il faut être bienveillant. Puis là, quand ça arrive, ben là, il y a des gens qui s'accaparent ça comme... Il monétise même, ça devient une branche, là, le leadership bienveillant, tu sais, ça devient une chose. Bon. Après, ben, c'est comme, ben oui, je pense que les leaders, ils savent. Tu sais, comme leader, on sait quoi faire. Moi, mes leaders, ils savent quoi faire. Ils ont les connaissances, ils ont accès à un paquet de formations. Maintenant, c'est, oui, je veux être bienveillant. Il n'y a pas un leader qui se lève le matin, qui se dit, moi, je vais mettre le trouble, je vais être déplaisant. Ben non, on veut être bienveillant, on a l'intention, mais après... C'est comme comment je peux demeurer dans mon chemin d'humanité avec tout ce qui se passe alentour, la pression, le stress, mes tracas, la COVID, etc. Et là, la vraie question.
Mais c'est là que tes quatre capacités essentielles pour être un bon leader, qui seraient importantes. C'est quoi ces quatre capacités-là que tu parles dans tes livres?
Ouais, moi, ce à quoi je fais toujours référence, d'abord, c'est la conscience. Après ça, bon, on peut décliner. Pour moi, tu sais, je me suis posé la question à un moment donné parce que justement, il y a 15 ans, on ne parlait pas tant que ça dans les organisations, la conscience. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ésotérique, comme tu disais tantôt, Lolita. Fait que, à quoi ça sert d'être conscient? Comme adulte, on arrive, on sort de l'adolescence, on arrive à l'âge adulte, puis on est conditionné, on est socialisé.
On frappe un mur.
Ouais, mais oui.
Je pense que c'est pas ça.
Exact. Parce que toute notre vie antérieure, tu sais, avant, mettons, parlons de la crise de la quarantaine, là, c'est pas un mythe, là, cette affaire-là. On arrive à l'âge adulte et là, on a appris, on a compris de notre environnement, c'est quoi la personne que je dois être pour répondre au contexte, aux besoins de mon environnement. Puis on a créé toutes sortes de stratégies d'adaptation pour survivre à notre contexte. Puis on entre à l'âge adulte comme ça, fait comme leader. On amène notre humanité dans notre organisation, dans notre leadership. Alors, la conscience, à quoi ça sert? Ben, c'est d'être un leader qui n'est pas toujours soumis ou victime des livrables et de l'environnement, qui est capable de créer à partir de sa mission et de son sens. Alors, le leadership, moi, la conscience, ben, c'est l'élément numéro un, puis c'est la base de tout. Donc, développer la conscience des humains au lieu d'être conditionné dans nos réflexes, dans notre pilote automatique, en mode survie, hein, c'est un mode survie dans le fond.
Sortir du conformisme, comme tu dis si bien.
Voilà, sortir du conformisme. Puis ça aussi, ça arrive. T'sais, on parlait des crises de vie. À un moment donné, on se rend compte, ouais. Je vis ma vie pour les autres. Mm-hmm. Je vis la vie que les gens attendent de moi, les exigences qu'on s'attend de moi. Fait que c'est ça, la conformité. Puis, j'ai peur que les gens m'aiment pas. Tu sais, qu'est-ce que ça me prend pour être en sécurité, puis être apprécié, puis avoir de les valeurs? Ben, c'est que les gens m'aiment, puis être leader, ben, ça peut pas être juste ça. Mm. Fait que, pour moi, la conscience, c'est pas nécessairement de l'apprentissage, c'est du désapprentissage. C'est ça. Fait qu'il faut apprendre à désapprendre.
Ouais.
Puis, quand je lis ton... Ah, on a une question, Joseph Abbott, qui dit « C'est vrai, les choses changent pour la majorité de la population pour le mieux. Il y a moins d'employés qui sont prêts à accepter n'importe quoi pour garder leur travail, mais il y a encore les personnes les plus démunies, ça les minimum, qui ont tellement peur de perdre leur emploi qu'ils acceptent encore de se faire malmener. »
Ah, Joseph, c'est un commentaire tellement sensible et lucide. Et c'est vrai qu'il y a la théorie, hein, on peut théoriser ad vitam aeternam, mais il y a aussi ce qui se passe sur le terrain. Je suis allée faire un mandat il y a un an, je suis allée faire un mandat au Madagascar, en Afrique, qui est un pays en voie de développement. Ouais. Il y a des leaders là-bas qui me disaient, tu sais, nous, on a je dirais, ce luxe-là de pouvoir penser à notre développement et tout ça. Puis il y a des leaders qui me disaient, tu sais, Pascal, pour nous, l'enjeu, c'est de garder notre travail parce que grâce à notre travail, ben, on peut s'occuper de notre famille, de nos familles élargies. Donc, sortir de la conformité, il y a un risque qui est extrêmement grand. T'sais, fait que c'est à ça, Joseph, que c'est à ça que vous me faites penser. Et c'est vrai, ça, c'est la réalité. Fait que, et je pense que la conscience nous aide justement à faire des lectures justes des environnements et à être plus sensibles. Il n'y a pas une culture organisationnelle pareille. Il n'y a pas une culture familiale ou de communauté qui est pareille. Il n'y a pas un humain qui fonctionne de la même façon. Alors, pour un humain, la conformité pourrait dire X, puis pour un autre, pourrait dire autre chose.
Ouais, complètement autre chose.
Quand j'ai lu ton livre, ça m'a fait penser un peu entreprise libérée, armocratie, plus de patrons, puis tout le monde au même niveau. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise dite holacratie, puis entreprise libérée, puis ça a été un peu un foutoir complet. Est-ce que être un leader inspirant, conscient et tout ça, est-ce que ça ressemble un peu à, je vais dire, entreprise libérée?
C'est une excellente question. Frédéric Laloux, dans son travail. Ben oui, écoute, j'adore à date, là, j'adore tes questions, Jean-Luc. Et Lolita aussi, d'ailleurs. Frédéric Laloux a vraiment touché beaucoup le monde des organisations, inspiré le monde des organisations par son ouvrage. Et on parle de ça, on parle des stades de conscience collectifs. Maintenant, certaines personnes disent « Ah, ben c'est un peu utopique de dire qu'un jour, ben on va arriver à ce genre de modèle d'affaires. » Moi, je choisis dans la vie de ne pas être cynique parce que j'ai besoin de croire en l'humain pour faire le travail que je fais. Ceci étant dit, le modèle d'entreprise libérée, c'est une finalité. Hein, donc, et la majorité des organisations d'aujourd'hui, il y a 70% des organisations qui fonctionnent encore sur le modèle du contrôle de l'autorité. Ça veut dire qu'on est loin d'avoir une majorité d'entreprises libérées. On est très loin de ça. Par contre, moi, je trouve que c'est un modèle qui peut nous inspirer à faire certains passages. Par exemple, une des choses, moi, qui m'a beaucoup attirée, parce que dit Frédéric Laloux, c'est tout le passage, par exemple, du contrôle à la confiance. Hein. Comment est-ce qu'on peut, au lieu d'exiger de nos employés, de mettre toutes sortes de mesures, et ça, ça part toujours de la peur. On a peur qu'ils volent, on a peur qu'ils mentent, on a peur que... Alors, comment est-ce qu'on peut partir de la confiance, créer de la sécurité? Alors, entre l'entreprise libérée et l'entreprise, par exemple, dans laquelle on travaille, il y a plein de pas. Fait que moi, je dis toujours à mes clients, le but, c'est pas de dire « Ah, ben je vais devenir une entreprise libérée. » C'est « ben voici l'intention que je porte. » C'est quoi le premier passage que je pourrais faire dans... Puis après ça, on peut mettre les mots qu'on veut, vers plus de confiance, vers plus de...
Plus d'autonomie.
Plus d'autonomie, plus de sécurité, plus de sens. Dans le fond, ce qu'on veut...
Plus d'empathie.
Plus d'empathie, plus d'humanité. Puis, il y a certaines cultures organisationnelles, on le voit. Il y en a qui sont plus orientées vers l'humain. Il y en a qui sont plus orientées vers la performance. Un des deux n'est pas mieux. Si je suis seulement dans l'humain, je crée un environnement très confortable. Mais ça avancera pas.
Non.
Fait que la réponse, elle est dans le dosage entre les deux. Fait que l'entreprise libérée, pour moi, c'est ça, c'est d'être capable d'arriver collectivement à ce stade de conscience où on est capable d'adopter une pensée complexe pour être capable de bien doser.
Oui.
Si on y arrive collectivement, c'est que les individus ont fait ce travail-là parce que le collectif, c'est une somme d'individus. Fait que c'est pour ça, Jean-Luc, pour répondre à ta question, que moi, je vois ça comme une... C'est une route. Hein, on peut avoir une intention, puis après ça, ben, mais ce n'est pas une finalité en soi.
Non, non, puis on ne peut pas l'imposer du jour au lendemain, puis que...
Non, bah, c'est un gros travail.
Un gros travail.
Oui, l'équipe de tous les jours, puis envers soi-même en premier. Là.
Exact. Mm.
Moi, je voudrais te poser une question que tu poses dans le livre. C'est, parle-moi de tes leaders qui t'ont marqué et qui t'ont inspiré. Parce que tu dis que tu décolles vraiment le livre en posant cette question. Mais moi, j'aimerais que toi, tu nous dises c'est qui tes leaders qui t'ont inspiré. Parce que pour amener là où tu es aujourd'hui, il y a dû avoir des personnes qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, que tu as dit « c'est vers là que je veux aller ». Parce que ça, ça vient me chercher, ça me parle, ça vient vibrer en moi.
Oui, il y a toujours on apprend aussi par le contre-exemple, fait qu'il y a toujours des leaders qui nous ont moins inspirés, puis on apprend aussi comme ça.
On veut pas faire ça.
C'est pas ça la question.
Mais cela, on ne les citera pas.
On ne les citera pas. Mais j'ai deux exemples là, qui me viennent en tête comme ça rapidement, puis c'est vrai que c'est une question que je pose souvent, puis... Les gens, quand je leur pose cette question-là, ils donnent toujours des exemples, des caractéristiques très humaines. Tu sais, c'est pas la personne est capable de bien gérer son agenda ou de faire des bons plans de projet. Non, c'est toujours des qualités humaines. Fait que c'est ça qui est vraiment fascinant. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on recherche. Alors, c'est ça qu'on souhaite être puisque c'est ça qu'on recherche. Moi, quand j'ai eu 23 ans, je travaillais comme gestionnaire. C'est mon premier poste de gestion. Et j'ai eu un patron qui s'appelait Bill. C'est un anglophone. Puis il m'a donné... je sortais du HEC. En fait, j'étais encore au HEC parce que je faisais l'HEC de soir. Et cet homme-là a vu des choses en moi que même moi, je ne voyais pas de moi. Il m'a promu à un rôle de gestion. Il m'a donné un rôle de gestion qui couvrait le Québec et l'Ontario. Fait que je me suis retrouvée dans des bottines de gestionnaire à début vingtaine. Et je m'étais posé la question, mais bon, tu sais, je le crois. Tu sais, c'était difficile à croire moi-même comment je vais me sortir. Mais lui, il a vu en moi, il a cru en moi. Et j'ai remarqué plus tard dans ma vie que, tu sais, on a chacun nos dynamiques humaines, mais moi, dans ma propre dynamique humaine, peu importe les compétences ou les connaissances que je vais avoir, il y a une partie de moi qui doute.
Oh mon Dieu, oui. Le syndrome de l'imposteur.
Il y a beaucoup. Oui, puis on est plusieurs, je dirais, à se dire, ah, ben, tu sais, mais voyons donc, tu doutes, tu sais, ben oui, tu sais, Donc, j'ai une partie de moi qui doute. Il y a un doute qui est constructif parce que ça m'amène à, je dirais, rester dans l'humilité, mais il y a une partie aussi, parfois, qui, tu sais, c'est, qui me dérange. Puis, il y a des gens dans ma vie qui ont cru en moi des fois plus que je croyais en moi-même. Puis c'est fascinant parce que je regarde ça en rétrospect, puis c'est pas arrivé seulement qu'une fois, mais cet homme-là, je sais pas où je serais aujourd'hui, on sait jamais hein, qu'est-ce qui serait arrivé avec toutes les scies, mais il m'a offert ce premier rôle de gestionnaire avec absolument aucune expérience. J'ai pas fait tout bien, j'ai été loin d'être une bonne gestionnaire au début, je savais pas ce que je suis maintenant. On n'avait pas les parcours de développement qu'on a aujourd'hui. J'ai appris un paquet de choses. Mais cette confiance-là qu'il m'avait offerte,
c'est un gros cadeau.
Ça a été pour moi un cadeau de vie. Mm-hmm. Alors ça, c'est un exemple. Et après ça, j'en parle un petit peu dans mon livre. Quand je suis allée en Afrique à la trentaine pour faire de l'humanitaire, Je partais évidemment, comme je vous disais, du monde corporatif dans la performance. J'arrive en Afrique de l'Ouest, au Mali, et je travaillais dans des villages. J'étais dans des projets pour aider les gens des villages à commercialiser les céréales, parce que c'était 80% des agriculteurs là-bas. Donc, je me promenais dans des villages, rencontrais des chefs de village, et là-bas, on donne beaucoup de respect. Moi, je suis à moitié africaine, fait que ça, c'est une autre histoire, mais en fait, ça, c'est l'anecdote, comme on dit, le funny fact. Je savais que j'étais à moitié africaine, mais je savais pas d'où. J'ai fait un petit test en ligne, là.
Mm-hmm.
Et je suis 50% d'Afrique, un petit peu d'Afrique du Nord, un petit peu du Sénégal et en majorité du Mali. Fait que quand je suis allée au Mali, j'étais sur ma terre mère.
Tu retrouvais tes racines?
Je ne savais pas. Et je ne le savais pas. Tu sais, c'est complètement fou. Fait que cet apprentissage-là, tu sais, Jean-Luc, tu me demandes, mais qu'est-ce qui a été significatif? Moi, ça a été tellement significatif à plein de niveaux. Celui-là, personnel, hein, c'est comme... Il s'est passé des choses dont je pense que je n'étais même pas consciente. Et les rendez-vous que j'ai eus, les rencontres que j'ai eues avec les chefs de village, ça a été pour moi significatif parce que le Mali, c'est une culture de relations. C'est une culture aussi où la communauté est importante, où on accorde beaucoup d'importance à la sagesse, à la transmission des traditions par la parole. Alors, quand je rencontrais des chefs de village sous le baobab avec mon ordre du jour, mon ordre du jour bien établi, ben, c'est ce que je pensais qui allait se passer. C'est pas
ça. Ça ne se passait jamais.
Ça ne se passait jamais. Alors, une des anecdotes que je peux appeler ma vie, on est sous le baobab et j'ai 2 heures avec ce chef de village qui vient pas loin de Tombouctou. Il avait pris 2 pirogues, le jeep et tout ça pour arriver à Ségou. Moi, j'étais à Ségou dans ce temps-là. Et on s'assoit sous l'arbre à l'ombre, puis on va chercher le thé, on s'assoit. Et là moi, j'ai... Ah, parce que le temps, la performance, l'ordre du jour. Et là, on commence les salutations. C'est un protocole de salutation. Alors, Pascal, ça va, la vie au Canada? Hein, et on commence à échanger. Puis là, ben, ici, les salutations, c'est un processus qui est quand même relativement court. Mais là-bas, je pense qu'on était rendu à 1h20, presque 1h30 dans mon ordre du jour de 2h. Et il me regardait d'un œil amusé. Puis il m'a dit, puis j'ai dit, ben, qu'est-ce qui crée l'impact, tu sais, comme, tu sais, vous êtes des leaders, tu sais, dans vos villages, dans vos communautés. Puis il m'avait donné quelques messages que j'ai compris beaucoup plus tard, d'abord de ralentir. Puis il m'avait dit, tu sais, puis c'est comme tellement contre-intuitif, mais il m'avait dit, tu sais, regarde l'arbre sur lequel on est assis, il est là, il est présent, tu sais, la présence. Il nous protège de ses branches. Tu sais, c'est l'analogie que le leader, c'est ça, son rôle, c'est de créer un espace où les gens se sentent en sécurité. Et ça, c'est il y a 25 ans. Là. Aujourd'hui, on parle de sécurité psychologique, mais ce leader-là, c'est de ça qu'il me parlait.
C'est en avance, hein?
Ben, parce que c'est dans la culture.
Ben oui, ça fait partie d'eux.
Exact. Fait que moi, la leçon, c'était ça. C'était comment le leader est là comme pour créer cet espace de sécurité, présence, alignement, bien aligné sur ses racines pour être capable d'étendre ses branches. Alors pour moi, c'est ça, un gestionnaire inspirant. Lui, il m'a enseigné le ralentissement, l'importance de retourner à nos racines. Et ben, j'ai eu des belles leçons de vie. Et je pense que ça a été le commencement de « OK, ben, il y a autre chose, la performance. Et bon, on fait quoi avec ça, là? Comment on peut allier les deux? » Fait que je pense que ça a été les balbutiements.
Ça réjouit bien une de tes phrases, ça, un autre. Là, si je te cite, tu dis « Les grands leaders inspirent davantage par ce qu'ils sont et non par ce qu'ils font et savent. » C'est exactement ce que tu viens de dire de la personne que tu avais rencontrée, là.
Exact. On a appris toutes sortes de, comme je disais tantôt, des stratégies pour avoir de la valeur, pour fonctionner dans notre monde. Puis il y a des stratégies, bien, il y a le faire. Hein? Plus je fais, plus je réalise, plus je fais bien, plus je fais beaucoup. Être occupé, débordé, en faire le plus possible, s'épuiser au travail, c'est quasiment, tu sais, comment tu vas? Ah, je suis occupé, mais mon Dieu, je ne peux pas dire comment je suis occupé. Tu sais, c'est comme, c'est quasiment rendu, c'était quelque chose de
valorisé. C'est la norme.
C'est la norme. Fait que le faire. Puis après ça, ben, il y a le savoir. Fait que les gens vont, ils peuvent nous respecter. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances, qui fait bien les choses, qui fait beaucoup. Mais tu sais, Jean-Luc, tantôt, tu me posais la question, qu'est-ce qui inspire? Puis la question que je pose souvent, c'est pas ça que les gens mentionnent. C'est pas, ah, il y a des connaissances. Il est brillant. C'est pas ça. C'est, il m'écoute. Il me voit dans ce que je vis. Il y a de l'empathie, il y a de l'humanité. C'est toujours ça que les gens disent. Alors, le leader inspire par ce qu'il est.
Oui, et tu dis aussi comme quoi qu'un leader, ça n'a pas besoin de diriger une entreprise, qu'on peut être aussi un leader dans sa communauté pour ce qu'on représente. Ça veut dire qu'on peut être un leader, mais même dans le milieu communautaire et tout ça, pour vraiment pour ce qu'on développe.
Pour ce qu'on est.
Oui,
pour ce qu'on est.
Vraiment, parce que moi, les gens, des fois, ils disent, ah, ben, tu parles de leadership, mais on est toujours le leader de quelqu'un, d'abord. On est le leader de soi, au départ. Ça, c'est pas toujours une mince affaire, parce que se leader soi-même, c'est pas toujours si facile. Mais on est toujours le leader de quelqu'un. En fait, le leader, les gens ont envie de suivre des leaders. C'est pas nous qui pouvons s'auto-proclamer comme leader. Fait que, on est toujours le leader de quelqu'un. Ça peut être dans notre communauté, dans notre famille. On est leader comme parents. Alors, c'est pour ça que moi, le terme leader, c'est un terme que je prends au sens large. Il y a une nette différence entre être un gestionnaire et être un leader. On peut être un gestionnaire sans avoir une posture de leader. On peut être leader sans être gestionnaire.
Dans ton livre, tu écris les deux jeux du leader. Donc, il y a le jeu extérieur et le jeu intérieur. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots, s'il te plaît?
Certainement. Notre jeu extérieur, mettons pour les sportifs, là, on pourrait dire c'est le jeu sur la patinoire. Là. C'est qu'est-ce que je vais observer comme compétence. Tu sais, la personne a telle et telle et telle compétence. Et c'est observable. Et c'est important pour le leader, tu sais, de développer ses compétences et d'avoir des actions à impact positif. Là. Maintenant, c'est ce jeu extérieur, parce qu'on développe ça. Hein, bon, comment on peut développer la compétence, je ne sais pas moi, de courage, de gestion de temps. Fait que c'est important de pouvoir développer ces compétences-là. Mais à partir d'un moment donné où on dit, ah ben, on a toutes le même savoir, on a fait les mêmes formations, on a développé les mêmes compétences, mais ce qu'on voit, c'est pas la même chose d'une personne à l'autre, puis on n'a pas tous les mêmes freins, on n'a pas toutes les mêmes limitations, parce que le jeu extérieur origine du jeu intérieur, et le jeu intérieur, c'est sur quoi je m'appuie à l'intérieur de moi, pour générer ces comportements-là. Fait que c'est le sens que je porte, les intentions, mes besoins fondamentaux humains, mes valeurs. C'est toute ma boussole intérieure que j'appelle. Et le jeu intérieur, il va partir d'une personne consciente, n'aura pas le même jeu intérieur qu'une personne qui est moins consciente. Fait que le développement humain en conscience, c'est le jeu intérieur qu'on travaille. Après ça, ben c'est comme comment est-ce que je peux être plus en conscience de mes comportements et donc avoir une meilleure maîtrise, être en conscience de mon impact aussi. Et pour être capable de développer son jeu intérieur, ben on doit comprendre qu'on est une personne complète si on a accès à toutes nos dimensions humaines, c'est-à-dire physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.
Ouais. Donc, être authentique avec soi-même, c'est ça que tu dis?
C'est ça pour moi l'authenticité, parce que l'authenticité pour moi, c'est d'être complet comme personne. Puis souvent, à cause de toutes sortes de raisons, éducation, on a mis de côté certaines dimensions. Tu sais, pour certains d'entre nous, on met la tête de l'avant. D'autres vont mettre leur capacité d'action de l'avant. Souvent, notre point faible, c'est souvent le monde émotionnel, surtout dans les organisations, comme tu disais, Lolita, tantôt. Tu sais, il fut un temps où on disait, ben, on laisse les émotions à la porte. On laisse nos problèmes à la porte. Il ne faut surtout pas se montrer comme
vulnérable.
Ouais. Un humain a des émotions. Là. Si on est vivant, on a des émotions.
J'espère.
Normalement, on a des émotions. Normalement.
Hein, certaines personnes ont d'autres qui ont des émotions des fois.
Oui, exact. Alors, c'est ça, le jeu intérieur, c'est de développer cette conscience de soi, de qui on est dans toutes nos dimensions. Si notre sphère émotionnelle est un petit peu plus négligée, parce que ça arrive souvent pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas appris beaucoup dans, je pense à nos familles, là, quand on était plus jeunes. Bon, calme-toi, va dans ta chambre, tu reviendras.
Arrête de pleurer.
Arrête de pleurer. On s'est fait invalider beaucoup dans nos émotions. Fait qu'évidemment, qu'on arrive à l'âge adulte puis dans nos milieux de travail en ayant certaines lacunes de ce côté-là. Fait que c'est beaucoup ça que je vois qui est à développer, parce que la tête et l'action, on est des marathonniers on est tellement...
La performance. Le mot dit performance. Ouais.
Voilà.
Mais est-ce que je vais poser une question que peut-être plusieurs personnes se posent ce soir? Est-ce que ça s'apprend d'être un leader conscient? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est inné en nous? Est-ce que c'est naturel que ça arrive? Ou est-ce que, pas dire qu'il y a une école, mais est-ce que ça peut se développer? C'est une question qu'on peut se poser, là.
C'est une bonne question. Puis si ça ne s'apprenait pas, je ne ferais pas le travail que je fais. Alors, j'y crois. Je dirais que ça s'apprend, mais ce n'est pas un exercice mental. Parce que ce n'est pas en lisant des livres que je vais devenir plus conscient. Moi, ce que je favorise comme approche, et c'est ça qui m'anime, c'est d'abord, on est dans un monde qui favorise la vitesse. On veut que tout aille vite, vite, vite. Fait que c'est sûr que si je me tape un webinaire d'une demi-journée, c'est pas ça qui va faire de moi une personne gestionnaire conscient. L'importance de la durée, c'est un voyage. Se développer dans sa conscience, c'est un voyage de vie.
Ouais.
Alors, les parcours de développement pour gestionnaire, pour leader, dans mes croyances et dans mes pratiques, ils s'inscrivent dans une durée. Et ensuite, ben, ce sont pour être capable de créer des transformations qui sont durables, qui créent de la durabilité, on passe par l'expérience. Alors, ce n'est pas j'apprends des concepts parce qu'il y a une limite à apprendre des choses. On peut se remplir la tête, mais après ça, comment est-ce que je mets ça en pratique? Fait que nous, on a vraiment des façons pour les leaders d'expérimenter. Exemple, on ne va pas parler de, bon, c'est la définition de la vulnérabilité, pourquoi c'est important, on va la faire vivre, la vulnérabilité. Fais un feedback d'impact à telle personne. Nomme-toi à partir de ce que tu sens. Qu'est-ce que ça te fait de te nommer comme ça? Toi, quand tu reçois ça, ça te fait quoi? Fait que c'est un laboratoire humain.
Ouais.
Et donc, à partir de ça, ben, la personne, ce n'est pas un apprentissage mental, mais elle va vivre des nouvelles expériences. Fait que je vais expérimenter la vulnérabilité. Je vais me dire, ah, mais regardons ça, je suis encore en vie. C'est pas si bien que ça. C'est pas un drame. Alors, et la prochaine fois, ben, je vois l'impact. Qu'est-ce que ça a créé comme impact? Ah, wow, je me suis montrée vulnérable. J'ai reçu du soutien.
Puis j'étais encore
vivante. Puis j'étais encore là. Oui. Puis j'ai reçu du soutien. Fait que ça défait des croyances qu'on a. Ça crée des nouvelles empreintes émotionnelles. Et après, ben, je peux agir différemment à partir de ces nouvelles empreintes. Alors oui, Jean-Luc, ça s'apprend. Mais c'est pas j'ouvre un livre et j'apprends à la conscience. Si j'expérimente, c'est une pratique quotidienne.
Est-ce que quand tu fais, donnes des formations de ce genre-là, ton plus grand défi? C'est quoi?
Le plus grand défi, moi, je me dis toujours que je ne peux pas demander aux gens d'ouvrir dans leur vulnérabilité si moi, je ne le fais pas. Alors, moi, j'étais pas quelqu'un, je suis plutôt, je suis une introvertie qui après est expressive, mais si tu m'aurais dit que j'aurais fait des conférences un jour, ça n'aurait pas... Tu sais, j'étais une petite fille très, un petit peu un télo, qui aimait les livres, qui était beaucoup dans sa chambre. Alors, ouvrir sur les autres, moi, c'est mon chemin de vie. D'ouvrir sur ma propre vulnérabilité, de par mon histoire de vie, une jeune fille, ben, justement, mixte, adoptée dans une famille de Québécois, beaucoup de peur, des bris relationnels, des abandons, des rejets. Fait que ça, c'est tout le voyage d'authenticité. Moi, c'est mon chemin de vie. Alors, d'arriver à voir comme une relation humaine, comme quelque chose de nourrissant et non pas comme quelque chose de menaçant, puisque moi, la relation humaine, c'était quelqu'un qui pouvait m'abandonner. Fait que ça, c'est mon histoire de vie. Alors, d'ouvrir, ça a été mon chemin de vie. Puis là, maintenant, ce que je demande aux gens, ben, c'est d'ouvrir sur leur propre enjeu. Alors, moi, je vois beaucoup de sens pour moi à partager. Puis c'est pour ça que je fais ce que je fais, que j'écris. Et c'est un étirement à chaque fois, le littard. Tu sais, des fois, ça a l'air très fluide et facile, mais pour moi, c'est parce que le sens est fort.
Donc, tu acceptes de te mettre en danger pour révéler ta vulnérabilité. C'est comme ça ton défi que tu arrives à passer au travers.
Voilà. Fait que dans les espaces de développement et de formation, on va parler, par exemple, avec les gestionnaires, on va dans leur histoire de vie, dans leur empreinte émotionnelle. Ben, moi, je modélise ça. Je vais leur parler de la mienne. Je vais leur parler de l'impact de mon histoire. Je fais partie du système avec eux. Évidemment, j'ai un rôle d'intervenante, de facilitatrice. Puis je les emmène dans des expériences. C'est beaucoup de travail, je dirais, à main nue, parce que je ne sais jamais, on ne sait pas ce qui va se passer. On est avec des humains, il peut se passer toutes sortes de choses, mais moi, ma règle du jeu, C'est que ce que je demande, je l'offre aussi. Fait que c'est, il y a une réciprocité, je dirais. Fait que l'enjeu, tu sais, d'emmener des gens, des fois, qui ont des craintes à s'ouvrir. Puis on est dans un espace.
C'est toujours un danger de s'ouvrir, c'est sûr. C'est toujours un danger.
Ouais. Exact.
Pour soi, fait que des fois.
Ben oui, tout à fait. Fait que pour moi, c'est ça. Ça a été les défis au début. Tu sais, comment je peux créer cet espace de sécurité psychologique. On le fait à notre façon, mais pour moi, ma façon, c'est vraiment par le lien, par la réciprocité, par la générosité aussi de s'offrir dans notre expérience. On est différents comme humains, un à l'autre, mais on est similaires, puis on est différents aussi par nos histoires. Tu sais, c'est un peu un paradoxe, mais chaque humain a une histoire. Il n'y a pas un humain qui n'a pas d'histoire. On a toute une histoire qui a laissé des empreintes. Puis j'aime beaucoup le terme empreinte parce que c'est un terme neutre. Quelqu'un qui va dire, ah ben moi, j'ai pas d'histoire, j'ai grandi dans une famille assez ordinaire ou qui avait de l'amour, ben, il y a une histoire et il y a des empreintes. C'est quoi les empreintes? Fait qu'on travaille à partir de là. Fait que chaque humain peut se rencontrer. Et c'est là que la beauté se passe. Fait qu'au début, pour moi, c'était un frein, là, l'étape. Puis maintenant, ben c'est un échange.
Donc, à chaque fois que tu passes par-dessus ou que tu révèles des choses que tu ne t'attendais pas, c'est une belle victoire.
Ouais, puis c'est je me surprends sans cesse à être touchée.
Non, c'est le fun.
Ouais, c'est d'une grande beauté, moi, de voir des humains, des gestionnaires qui prennent le temps de venir faire, mettons, une semaine intensive avec nous, là, pour se rencontrer eux-mêmes, aller à la rencontre d'eux-mêmes. Et je suis touchée tout le temps. C'est de la beauté qui se révèle. Un humain, là, qui est vu dans ce qu'il est, qui est vu dans ce qu'il vit, là, il peut ouvrir. Et à partir de cette place-là, on voit des fois des gens éclore, tu sais, devant
nous. Oui, c'est une façon de se mettre à nu, là, dans tes émotions, là. C'est quelque chose fort, là.
Oui, moi, ça me touche, tu sais, à chaque fois. C'est de la grande beauté humaine.
Et dans les pour les leaders, moi, je ferais un tableau et dans lequel je mettrais le dessin, celui-là, accroché vraiment dans tous les bureaux à peu près d'affaires au Québec et qui représente remplir le vase ou élargir le vase. Et quand on comprend la signification des deux, ça prend tout son sens. Puis, écoute, Pascal, merci d'avoir fait ce dessin, là, parce que c'est vraiment, quand on comprend la signification des deux, toi, tu dis qu'agrandir le vase, c'est agrandir notre esprit. C'est changer notre façon de penser et d'agir, et cela demande inévitablement d'être plus conscient.
Voilà. Donc, les connaissances, tantôt on parlait des différentes façons de grandir comme personne, mais comme gestionnaire, mais comme personne. Fait que le développement des compétences, développer notre savoir. On va lire, on peut lire, on peut lire, on peut apprendre, on remplit le vase. Mais à un moment donné, le vase est plein, là. T'sais, on a des connaissances. Puis pourquoi on aurait toutes ces connaissances-là? Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec des Google, des trucs, je ne sais pas moi, de comment gérer mon temps, comment être courageux, comment, peu importe, on trouve pas mal toutes.
Oui, il y a des milliers de possibilités.
Il y a des milliers de possibilités. Après ça, les trucs de gestion de temps, par exemple, moi, je peux dire que j'en connais plus les best-of, comment, bon, mais... je me retrouve quand même étirée à dire oui à des choses que j'ai pas envie, que j'aurais envie de dire non. Je me retrouve dans des pièges. Et là, c'est le développement vertical. Élargir mon esprit, changer ma posture pour être capable de voir, OK, ben qu'est-ce qui m'empêche de... C'est quoi les croyances que je dois transformer pour... Comment je peux voir... Et là, on est dans le développement qu'on appelle vertical. Et c'est ça, élargir le vase. Fait que la majorité des leaders, quand ils sont des leaders d'entrée, il faut qu'ils apprennent les techniques de gestion, les compétences de gestion. Fait que les deux, comment tu l'as dit, Jean-Luc, quand c'est les deux ensemble, on ne dit pas que le développement horizontal, c'est pas bon, c'est essentiel aussi.
Exact.
Mais après ça, il y a beaucoup de leaders qui disent, ben, je le sais ce que je dois faire, je le sais ce que je dois être, mais pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être ce que je veux être? Et c'est là que le développement, que l'élargissement du vase arrive.
As-tu des exemples significatifs de gros changements que ça a apporté à certains de tes clients, là? Que ça a changé leur vie d'accepter qu'ils étaient des leaders puis d'affirmer qu'ils sont des leaders. As-tu quelques exemples?
Ouais, écoute, j'en ai plein. Comme on est dans un laboratoire, on voit les gens en action. Fait que c'est pas comme on s'assoit, on apprend des concepts, puis après ça, ils repartent à la maison. On les voit dans leur leadership, on les voit donner, recevoir du feedback. Et il y a une leader d'expérience. Ça faisait 2 ans qu'elle se développait avec nous. Nous, c'est du longue durée. Fait que les gens, ils font plusieurs années que nous. Et donc, tantôt, tu parlais là, le temps du syndrome de l'imposteur.
Ouais.
Et cette femme-là, elle avait un poste de vice-présidente dans une grande boîte. Puis elle trimballait ce syndrome de l'imposteur depuis toujours.
Très longtemps.
Très longtemps. Alors, on est à la fin d'un parcours et on a fait une espèce d'activité à la fin, une espèce de. C'était assez cérémonial, je dirais, parce qu'on finissait le parcours et les leaders recevaient des mots d'appréciation, de feedback, puis il y avait comme une espèce de manifesto à faire. Et les feedbacks que cette leader-là a reçus, parce qu'on se développe, tu sais, on se développe en relation avec les autres. Hein.
Oui.
Et donc, tout
Sinon,
au
tu es
long.
leader de personne, là.
Exact. Cette leader-là a appris dans son expérience avec les autres participants, elle s'est mise en conscience de son impact, mais dans le laboratoire humain dans lequel on vit. Fait qu'à la journée de cérémonie, elle a reçu des rétroactions. Et il y a quelque chose qui s'est. Tu sais, il y a comme de l'intégration hein, qui se fait. Fait qu'elle est devenue très émue. Et bon, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelque chose à ce moment-là qui s'est ancré en elle, une espèce de solidité intérieure. Et tout ça, ben, je parlais des empreintes tantôt, puis elle a dit, ben, toutes ces empreintes-là qui se sont créées, elle dit, là maintenant, je suis consciente de mon impact. Quand on lui retournait l'impact positif qu'elle avait, avant ça, c'était le discours intérieur critique là, qui partait, là. Ben voyons donc,
Ils veulent me faire
je
plaisir.
veux me faire plaisir.
Ça.
Et là, ce qu'elle a constaté dans son cœur, dans son corps, c'est que je reçois des rétroactions. Ça rentre, ça passe. C'est, tu sais, je le prends, puis ça goûte bon. Puis, fait qu'elle a eu comme, tu sais, des fois, il y a des ha-ha
Une
moments,
révélation.
une révélation.
Ouais.
Et elle a dit, il y a quelque chose qui a changé en moi. C'était extraordinaire. Un autre moment, tu sais, les moments comme ça qui me touchent, là, c'était extraordinaire. Fait que, écoute, il y en a plein, mais c'est ça, c'est que ces moments d'intégration-là, tu sais, les gens, ils sentent dans le corps. Hey, c'est fluide parce que tu sais, c'est ça la différence entre le stade de conscience où on est conditionné ou pas conditionné, là, réactif ou créateur. Quand tu es aligné en conscience, authentique, aligné sur tes valeurs, tu n'as pas nécessairement à processer mentalement, je suis-tu aligné puis aligné sur mes valeurs, etc.
Ça fait
Ton
ça.
corps te le dit.
Ça fait ça.
Est-ce
Ouais.
que cette leader-là, est-ce que maintenant elle dirige avec sa boussole intérieure? Parce que tu l'expliques, cette fameuse boussole intérieure, ça veut dire qu'en plein milieu, tu as l'ancrage. Et là, tu as en haut, tu as le spirituel, le sens et les intentions, les besoins et ma personne. C'est un dessin qu'il y a dans ce livre. Est-ce qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle dirige avec cette boussole intérieure?
Oui, puis là, je vais, tu sais, parce qu'il n'y a rien de noir et blanc, Jean-Luc, là-dedans. Voici comment moi, je vois le développement en conscience. On ne passe pas du jour au lendemain entre le réactif et le mode créateur, c'est les 2 stades de conscience, c'est un voyage et c'est de plus en plus, on dépense de plus en plus d'énergie dans le mode créateur versus le mode réactif. Alors, de plus en plus de notre énergie est dépensée à partir de notre boussole intérieure. Après, le reste de notre énergie, c'est encore conditionné parce qu'on ne s'en sort pas. Mais ce qui se passe, c'est que plus on devient conscient, moins de temps on va passer dans ce mode conditionné, plus rapidement on va se voir aller quand on tombe, on bascule dans nos conditionnements. Puis avec le temps, bien, comme cette leader-là, par exemple, bien, peut-être que quand, je ne sais pas, là, j'ai pas de chiffres, mais quand elle a commencé son parcours, bien, peut-être qu'elle était conditionnée en grande partie de son temps, sujette aux peurs, aux autocritiques. Donc, c'est ça qui conditionnait ses comportements. Et là, bien, à la fin...
Ça la fragilisait, autrement dit.
Ben oui, exactement. 2 ans plus tard, bien... une plus grande majorité de ses actions étaient bien alignées sur « Oui, je constate la peur. Je constate qu'en ce moment, là, je ne suis pas sûre d'être capable de faire le mandat qu'on offre. » Mais ce n'est pas ça qui mène. Elle est plus victime de ses peurs. C'est « Ok, je vois cette peur et je souhaite quoi? » Et là, c'est là que la boussole intérieure embarque. Mais pour ça, il faut être conscient parce que sinon, oui. On est victime de la peur. Puis on s'en
elle voit la peur, mais est capable de l'affronter, là.
Voilà.
Puis, il y a aussi dans ton livre « Les et les où ».
Ouais.
Ça, c'est vraiment... il faut que tu l'expliques quelques minutes aux personnes qui nous écoutent. Puis, posez vos questions à Pascal. On est encore avec vous pendant une dizaine de minutes. Posez vos questions. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment... Toi, tu expliques vraiment que c'est... adapter la mentalité paradoxale de l'état d'esprit avec DI. Et tu donnes plusieurs exemples, c'est être transparent et créer de la sécurité psychologique, être transparent et authentique, gérer l'urgence et voir plus loin. Tu donnes plusieurs exemples comme ça.
On est dans un monde qui est binaire, en grande partie. On en parlait un petit peu au début. Et on a appris à fonctionner dans ce monde qui est binaire. Comme en 2023, notre réalité de leader, c'est une réalité très complexe. Notre monde est devenu très interconnecté et complexe. Quand on est dans un monde binaire, ben, par exemple, ça prend un gagnant, il y a un gagnant, mais il y a un perdant. J'ai raison, tu n'as pas raison. Je m'occupe de moi, mais je ne m'occupe pas de toi, ou vice-versa, je m'occupe de toi, je me laisse de côté. Je crée de la performance, mais je ne m'occupe pas des humains. Fait que le monde des « où », c'est le monde où on est dans une dualité. Puis c'est un ou l'autre. Il y a plein de dualités comme ça. Moi et l'autre, ça en est une, beaucoup. T'sais, je me mets au service des gens, je m'oublie, ou vice-versa. Je crée beaucoup, 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 beaucoup de résultats. Puis bon, fait que les ouais. « où », il y a toujours, c'est toujours au détriment. Je fais quelque chose au détriment de quelque chose d'autre. Mais c'est comme ça qu'on a appris à vivre. Alors, tantôt, je disais, c'est quand on entre à l'âge adulte, on entre au stade de conscience réactif. Et dans le stade réactif, on est dans le monde binaire. Puis regardez comment on vit, regardez les réseaux sociaux. Hein, c'est comment est-ce qu'on vit les conversations? Bien, c'est souvent des débats. C'est des débats de tête. T'sais, c'est la tête, mais fait que le « et », c'est aussi tête, cœur. Action. Fait que si on est juste à débattre de la tête, t'as raison, j'ai pas raison, il y a un gros « ou » là-dedans. Fait que faire des « et », ça veut dire, ça prend une posture, être capable de porter une contradiction. Être capable de porter la tension entre des idées qui semblent contradictoires. Fait que tantôt, Jean-Luc, au début, tu me demandais c'est quoi les aptitudes des grands leaders.
Ouais.
Puis là, je disais la conscience. Pourquoi la conscience? Parce que quand on est conscient, on est capable d'adopter cette mentalité complexe. Puis à quoi ça sert, le « et » Bien, prenons, dans toutes les organisations, on parle d'avoir des endroits qui sont évidemment sécuritaires psychologiquement, où il y a de l'inclusion. Pour être inclusif pour un leader, il faut que je sois capable de faire le « et » entre moi et l'autre. Parce que toi, tu as une expérience et moi, j'ai une autre expérience et on est capable d'avoir un dialogue ensemble. Alors, la mentalité paradoxale, c'est d'être capable de porter des idées qui, à première vue, semblent contradictoires. Ouais.
C'est deux chapeaux.
Oui, et c'est là la résolution de la majorité des enjeux en leadership parce qu'on est toujours pris dans des paradoxes. Tu en as nommé quelques-uns. Je n'ai pas le choix. Tu sais, on me dit « soyez dans le moment présent, soyez dans le moment présent ». C'est vrai. Mais le passé existe, puis on a des apprentissages à faire, puis il faut que j'aie une vision pour le futur. Fait que là, il y a un beau « et », hein, présent, passé, futur. Après ça, on dit ben, « occupe-toi de toi, hein, mets ton max à oxygène en premier ». Ouais, mais il faut aussi que je m'occupe de mon équipe. Fait que si je suis dans un ou l'autre, je suis soit en épuisement, ou c'est les gens que j'épuise. Fait Fait comment je fais pour me prendre soin et prendre soin des autres? Il y a un autre. Et là, il y a l'intérieur, l'extérieur, c'est être en lien avec les autres, créer de l'esprit de communauté, puis nos moments en solitude, d'introspection, de fixer.
Et trouver l'équilibre, finalement.
Oui. Ouais, moi, je préfère le mot dosage, Lolita, parce que chaque situation, tu sais, l'équilibre, c'est. C'est comme, mettons, on imagine une balance. Ouais. Le dosage, c'est que la conscience nous permet de lire la situation, faire une lecture la plus juste possible et de voir quel est le dosage. Par exemple, dans le paradoxe performance-humanité, si je suis en train de, je ne sais pas moi, faire une mise à pied, il y a un cadre, il y a une façon de faire. Je peux le faire avec humanité ou sans humanité.
Ouais.
Alors, la mise à pied va avoir lieu. Le résultat va rester le même, mais comment je vais le faire? Et c'est là que la réconciliation des deux. Je vais injecter de l'humanité.
OK.
Donc, le dosage peut varier. Si je suis en train de faire, je ne sais pas, moi, une rencontre plutôt sympathique avec un employé, là, c'est peut-être le dosage humanité, mais c'est la conscience du leader lui permet de lire la situation et de doser de la bonne façon.
Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin avec toi, il y a aussi ton infolettre qui est l'art d'être humain. Et il y a même un format audio, c'est que tu fais des balados maintenant?
Ben écoute, ça c'est nouveau mon cher. C'est mon troisième épisode audio qui est sorti cette semaine. Je me suis lancé un défi parce que je fais beaucoup de, tu sais, je fais beaucoup de conférences. J'ai commencé à écrire de la poésie au mois de janvier. Donc, je suis beaucoup dans l'art. Mon conjoint, c'est un musicien. On fait des petits projets de musique. Fait que je suis beaucoup dans l'art. L'art m'habite beaucoup. Je me suis donné des étirements en ce sens-là d'écrire de la poésie. Puis, les cours de poésie que j'ai pris, c'est de la poésie performée. Fait que c'est être artiste de la parole. Fait que pour moi, de pouvoir m'exprimer avec les mots de façon orale, ça m'allume vraiment beaucoup. Fait que je me suis demandé comment je pourrais allier ça avec mon infolettre qui existait déjà. Fait que j'ai commencé à la faire en audio. Puis là, j'offre des bouts de poésie, des bouts de texte avec du développement humain et de leadership en même temps. Mais puis les leaders adorent ça parce que c'est pas juste la tête qui est sollicitée. Ça leur fait du bien. Tu sais, c'est de la beauté. Tu sais, c'est ça maintenant que là où j'en suis dans ma carrière. Ben ouais. C'est là que j'en suis dans ma vie de, oui, créer des transformations humaines, mais créer des transformations humaines qui originent de l'amour, de la beauté, de comment l'individu se sent bien, se sent vu. Puis je trouve que l'art, ça contribue à ça. Tu sais, il faut s'inspirer pour inspirer.
Oui, tout à fait.
Puis c'est un balado très inspirant. J'en ai écouté, j'ai écouté deux épisodes, puis c'est vraiment très bien réalisé. Puis c'est vraiment très bon. Puis j'ai suivre tes autres balados avec grand intérêt.
Merci Jean-Luc. Wow, venant de toi, ça me touche parce que moi j'ai été apprentie là-dedans. Ben, fait que j'ai été chercher de l'aide. Puis là, je fais mes montages, mes enregistrements. Fait que ben merci, ça me touche énormément.
Il y a aussi tes parcours du gestionnaire. Tu donnes des conférences. Tes prochaines conférences ont lieu quand à peu près?
Ben moi, mes conférences, c'est des conférences corporatives. Fait que c'est les clients. Tu sais, ils ont des congrès, ils ont des événements, ils m'appellent pour des conférences, toutes sortes de conférences événementielles. J'ai le projet. Puis là, il n'y a rien encore de finalisé.
Mais
j'ai
le projet. De musique.
Ben, j'aimerais vraiment ça, là, Jean-Luc, tu lis dans mes pensées. Si, tu sais, mettons, là, une conférence grand public, parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Là, c'est les clients plus qui m'invitent. Et si, tu sais, organiser une conférence grand public qui inclut de l'art, la poésie,
la musique.
J'étais en train de réfléchir à ça, là, comment je pourrais faire ça.
Avec ton chum qui jouerait de la musique.
Voilà.
Il y a Isabelle Bouchard qui dit... Une belle découverte. Merci pour votre partage sur le leadership. Ça m'inspire pour l'avenir.
Merci, Isabelle.
Il y a le petit mot de Loli maintenant.
Ah oui, c'est vrai, on serait rendu là.
Ben oui.
Je te le copierai après, puis je te l'enverrai en Messenger. D'accord? Alors, pourquoi? Si tu aspires à devenir la meilleure version de toi-même, ne regarde jamais ton reflet dans celui d'autrui. Ton authenticité t'habillera toujours mieux que le paraître du voisin. Et voilà.
T'es une artiste, toi aussi. On connecte à dans notre cœur d'artiste, ma chère.
Ben, oui, merci, ma chère.
Merci beaucoup.
Et Pascal, c'est le mot de la fin qui t'appartient. Donc, c'est à toi ce moment. Tu peux le prendre comme tu veux. Je te laisse le mot de la fin. Puis nous, on va se retrouver pour vous annoncer le prochain invité. Et avec le mot de clôture. Mais Pascal, c'est à toi.
Ben, je dirais, avec ce qu'on vit dans le monde en ce moment, qui est des fois troublant, je dirais, je pense que le monde a besoin de leaders qui ont envie de transformer notre monde. Tu disais des fauteurs de troubles, Angélique. Là,
oui, oui, j'adore ce terme.
Monde, ouais. Et notre monde a besoin de beauté, puis la beauté, ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. On peut être leader avec des petits gestes dans notre quotidien si on garde cette intention-là de créer de la beauté. Fait que je nous encourage en ces temps parfois difficiles et gris à être des créateurs. Des leaders créateurs. Leaders créateurs de beauté et d'humanité dans le quotidien.
Mais merci beaucoup.
Il y a Nathalie Boldeux qui dit « Félicitations Pascal, belle inspiration.
» Merci Nathalie.
Il y a aussi Daniel Boivin qui dit « Merci à vous tous. »
Ben, c'est mon artiste amoureux, ça.
Oh!
OK!
Eh bien, il va bientôt se préparer à faire une tournée avec sa blonde.
Ah! On vous garde au courant. Ça oui. Annoncé, là. On n'est pas le choix.
Je vous rappelle que si vous voulez lire Pascal Dufresne, il y a Être leader, créateur, édition Bilivo. Et, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, il y a aussi Entre la tête et le cœur, qui date un peu plus longtemps, ce livre-là, par exemple.
Puis, c'est mon dernier livre.
T'en as un autre aussi, qui est « Être vrai dans un monde de faux ».
Oui, « Oser être vrai dans un monde faux », ça, c'était mon deuxième. Le premier, ça date, en 2016. Ça commence à dater, hein, mon Dieu. Ouais.
T'es dû pour un autre.
Est-ce qu'il y a un projet?
Message reçu.
Mm-hmm.
Ben là, j'écris beaucoup de poésie, fait que je pense que... Je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense que mon prochain ouvrage, ce sera un petit carnet. Moi, je parle toujours de développement humain et de conscience, mais je trouve qu'il y a plusieurs angles pour se développer. Alors, mon prochain livre...
Tout ça comme toi.
Voilà. Alors, ce sera les petits mots de Pascalou.
Oui, pourquoi pas?
Mais moi, je vais te faire une petite confidence. Quand j'ai lu ça, puis que tu parles un peu de poésie et tout ça, ça m'a fait un peu penser, tu sais, au livre de Michelle Obama.
Ouais.
Elle avait écrit un livre aussi inspirant pour les leaders et tout ça. Puis je me suis dit, on a peut-être la Michelle Obama du Québec.
Ben, pourquoi pas?
Écoute, là, Jean-Luc, tu me...
Prends-le!
Ben, je prends.
Prends-le,
non, mais c'est vraiment, j'ai vu des similitudes entre les deux livres. Mm. Puis j'ai dit, ils se marient très bien, ces deux livres-là. Puis... c'est dans la même mouvance, tout. C'est félicitations. C'est,
merci beaucoup. Je prends, Lolita, merci. Je prends. Ouais, je prends.
C'est gratuit. C'est, ce soir, c'est gratuit.
C'est ça.
Merci beaucoup, Pascal, d'avoir pris le temps avec nous. Ça a été un plaisir de t'avoir en live. Puis nous, on se retrouve le 31 octobre, le mardi, exceptionnellement, 31 octobre. Parce que le mercredi 1er novembre, je serai sur la route pour me diriger vers le Salon du livre de Rimouski.
Et les gens vont venir fêter l'Halloween avec nous.
Exactement. Mais pas besoin de me déguiser. Déjà, j'ai l'habit naturelle. J'ai déjà l'habit naturelle. Donc, ça va être Pamela Sauvé, qu'on connaît bien chez Bilivo, qui va être notre invitée. Donc, on se dit... à bientôt, puis un mardi 31 octobre, et j'espère que vous allez être au rendez-vous, comme ce soir, ça a été vraiment un plaisir. Puis il y a Joseph qui dit mercredi prochain, on a un live, oui, on a un live surprise pour quelque chose d'autre. Donc, une surprise qu'on va vous annoncer. Merci tout le monde. À bientôt. Merci Pascal. Merci Lolita d'avoir été là.
Bonne soirée.
Bonne soirée tout le monde. Merci.
À la prochaine.
Merci tout le monde. Salut.